France Culture.
Et je le disais, un débat de philosophie ce soir, puisque dans son discours de la méthode de 1637, Descartes affirme, je le cite, que les animaux ne sont que de simples machines, des automates, ils ne ressentent ni plaisir, ni douleur, ni quoi que ce soit d'autre. Fin de citation. Alors avec l'avancée des connaissances sur la sensibilité animale, cette thèse semble difficilement soutenable aujourd'hui, pourtant elle continue de fasciner et d'être discutée. Alors quelle figure revêt Descartes dans les débats contemporains liés à l'affectivité des animaux ? Quels sont les rapports et les limites de la théorie de Descartes à l'aune de l'évolution de cette relation entre humains et non-humains, entre humains et animaux? Pour en discuter, deux enseignants en philosophie. Louis Roquerolles, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en philosophie, spécialisé en histoire de la philosophie moderne. Vous avez publié en septembre dernier « Découvrir Descartes », c'était aux éditions Sociales, et vous avez participé à la nouvelle édition des œuvres de Descartes dans la bibliothèque de la Pléiade, qui a paru en novembre dernier. Face à vous, Étienne Bimbonnet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de phénoménologie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et vous avez publié en 2017 cet ouvrage intitulé « Le complexe des trois singes », et c'est sur l'animalité humaine. C'est un livre qui est apparu aux éditions du Seuil. Merci à vous deux d'être ce soir présents dans Questions du soir.
Les exploitations avicoles d'aujourd'hui ne ressemblent en rien aux basses-cours de nos grands-mères. Facile à sélectionner, à reproduire, à loger, à soigner, le poulet se fabrique aujourd'hui à peu près comme une boîte de détergent. Grâce à des convoyeurs mécaniques, on le remplit de farine en 7, 8 ou 9 semaines, et lorsqu'il est plein, on l'abat. Quant aux poules, ce sont des petites machines-outils à haute performance auxquelles on demande de pondre le plus d'œufs possible, en mangeant le minimum, bien sûr. Ces œufs ne sont-ils pas d'ailleurs, dès l'origine, des produits industriels? Les premières boîtes de conserve du monde, en quelque sorte. L'homme n'a plus qu'à les trier, à les emballer, complétant s'il le faut l'action de la nature, rectifiant au passage quelques-unes de ses rares faiblesses.
Une archive étonnante, il faut le dire, de janvier 1968, et une émission qui s'intitulait alors « Demain commence aujourd'hui ». Étienne Bimbonnet, est-ce que vous discernez dans ce passage, dans cette archive, des éléments de la pensée cartésienne? Est-ce que Descartes, à travers la distinction qu'il opère entre l'humain et le non-humain, entre l'homme et l'animal, a pu influencer la façon occidentale de percevoir les animaux en général?
Ah oui, c'est assez glaçant. C'est-à-dire qu'on n'entend même que Descartes hein, dans cette archive de 68. C'est-à-dire on entend une zootechnie sûre de son droit qui réduit l'animal non pas, ça n'est plus le sujet de sa vie, mais c'est juste un laboratoire nutritif, comme disait Lévi-Strauss. Et donc on pourrait croire que, enfin on peut se dire oui, la modernité cartésienne, la manière de purifier la nature de toute âme sensitive ou autre, de toute finalité, la manière de faire de la nature une étendue transparente offerte à notre pouvoir de faire, la manière de présenter l'homme comme maître et dominateur de la nature, sont passés par là. Clairement, quand on entend ce discours, c'est assez frappant, en effet.
Louis Roquerolles, pardonnez-moi, est-ce que vous faites la même analyse, hein, le poulet comme boîte de détergent, les poules comme machine-outil? Est-ce que là, on est dans un cartésianisme au carré? On fera d'ailleurs la distinction un peu plus tard entre le cartésianisme et Descartes, hein, puisque vous la faites justement en introduction vous-même de votre livre.
Alors je ne sais pas si on entend dans cette archive l'écho lointain de la pensée de Descartes. Il n'est pas certain que ce soit dans le discours contemporain toujours instruit par une lecture très précise de Descartes, mais il est certain que Descartes a soutenu cette thèse des animaux-machines. En revanche, un point sur lequel on aura peut-être l'occasion de venir, c'est qu'il n'est pas certain qu'il en ait tiré les conséquences en termes éthiques, pour le dire vaguement, ou du moins des conséquences sur la manière dont il convient de se comporter à l'égard des animaux. Donc on retrouve évidemment des éléments théoriques qui sont ceux du discours de la méthode que vous avez cité en introduction, mais il n'est pas certain qu'on trouvera dans les textes de Descartes, ou à peut-être une exception près qu'on mentionnera peut-être plus tard, l'idée selon laquelle il faudrait en tirer comme conséquence une manière de se comporter à l'égard des animaux qui consisterait à les élever en batterie, par exemple.
Alors je voudrais qu'on entre justement dans cette pensée cartésienne en commençant par un texte en particulier, hein, celle d'une lettre au marquis de Newcastle qui date du 23 novembre 1646. Ce texte est lu en direct par Juliette Moëlic.
«
Pour ce qui est de l'entendement ou de la pensée que Montaigne et quelques autres attribuent aux bêtes, je ne puis être de leur avis. Ce n'est pas que je m'arrête à ce qu'on dit, que les hommes ont un empire absolu sur tous les autres animaux, car j'avoue qu'il y en a de plus forts que nous, et crois qu'il y en peut aussi avoir qui aient des ruses naturelles, capables de tromper les hommes les plus fins. Mais je considère qu'ils nous imitent ou surpassent quand celles de nos actions qui ne sont point conduites par notre pensée, car il arrive souvent que nous marchons et que nous mangeons sans penser en aucune façon à ce que nous faisons. Et c'est tellement sans user de notre raison que nous repoussons les choses qui nous nuisent et parons les coups que l'on nous porte, qu'encore que nous voulussions expressément ne point mettre nos mains devant notre tête, lorsqu'il arrive que nous tombons, nous ne pourrions nous en empêcher. Je crois aussi que nous marcherions, comme les bêtes, sans l'avoir appris, si nous n'avions aucune pensée. Et l'on dit que ceux qui marchent en dormant passent quelquefois des rivières à nage où ils se noieraient étant éveillés.
Étienne Bimbonnet, qu'est-ce que l'extrait de ce texte plus exactement nous enseigne de cette distinction cartésienne entre l'humain et le non-humain, entre l'homme et l'animal, et en particulier cette vision de l'animal comme une machine ?
Oui, la lettre au marquis de Newcastle, c'est vraiment, avec le discours de la méthode, hein, 9 ans après, c'est vraiment le texte qui pose l'animal-machine. Alors avec toutes sortes de nuances qu'il faudra apporter, mais qui en effet font qu'on sait que Descartes est sans doute beaucoup plus fin que simplement l'animal-machine, qui en réalité sera gravé dans le marbre du cartésianisme après sa mort par ses exécuteurs testamentaires qui en feront une espèce de dogme qui passera à la postérité. Mais c'est vrai que c'est un énoncé particulièrement déconcertant, d'abord parce que c'est quand même très contre-intuitif de considérer que si mon chien s'est cassé la patte et qu'il hurle, il ne ressent rien. Comme dit un commentateur de Descartes, c'est un exploit assez extraordinaire philosophiquement de croire cela, de croire qu'en fait il ne se passe rien et que c'est semblable au cri d'une roue, parce qu'il compare souvent l'animal à une horloge. Bon voilà, donc c'est comme une roue qui crisserait, donc c'est assez dingue d'une certaine manière de penser cela. Par ailleurs, c'est assez anachronique pour nous. Darwin est passé par là, et donc l'idée que la différence entre l'humain et l'animal est gravée dans le marbre d'une métaphysique et que elle est donc absolue cette différence, alors que Darwin nous a montré que des animaux à nous, le processus de la spéciation et de la sélection naturelle introduit une forme de continuité, de différence de degré. Et puis il y a une dernière chose aussi qui est très très gênante dans cet énoncé, c'est l'aspect moral, c'est-à-dire que au siècle suivant, Rousseau et après lui l'utilitariste britannique Jeremy Bentham diront la question n'est pas de savoir s'ils peuvent parler ou raisonner comme les humains. La question c'est souffrent-ils ? Et bien sûr qu'ils souffrent. Et toute l'époque qui vient après, évidemment, donne raison à Rousseau et à Bentham contre Descartes. Et donc vous voyez, c'est à la fois contre-intuitif, c'est anachronique après Darwin et c'est moralement choquant cette thèse de l'animal-machine.
Louis Roucarol, est-ce que vous êtes vous-même stupéfait devant ce texte ? Est-ce que vous êtes frappé, vous aussi, d'incompréhension ? Ou est-ce que vous pensez, au contraire, que cette pensée-là doit être remise dans un contexte plus particulier ?
Alors, il y a peut-être deux remarques à faire à ce sujet. La première, c'est sur le caractère contre-intuitif de la thèse. Descartes, en réalité, en est parfaitement conscient. Il le dit peut-être plus clairement encore, d'ailleurs, dans une autre lettre d'avril ou mai 1638 à un correspondant qui s'appelle Polo, Alphonse Polo, dans lequel il explique que le fait de prêter aux animaux des sentiments est l'un des plus ancrés de tous nos préjugés. Pour une raison très simple, d'ailleurs, c'est lié à la domestication. Nous avons l'habitude de vivre au milieu des animaux et donc, par un processus un peu naturel d'identification, nous projetons sur eux nos propres sentiments. Donc le caractère tout à fait contre-intuitif de sa thèse est, me semble-t-il, assumé par Descartes lui-même. Ensuite, sur la question de l'anachronisme et donc de la nécessaire contextualisation, je voudrais faire remarquer seulement un point qui apparaît un peu d'ailleurs dans le texte qui vient d'être lu à l'instant, c'est qu'il faut bien tenir compte du fait que Descartes, d'une part, a une connaissance en fait encore rudimentaire du monde animal. Alors évidemment, il pratique un certain nombre de dissections lui-même, etc. Mais il n'a pas une connaissance, par exemple, des grands singes, de toutes les espèces animales dans leur diversité qui vont jouer un rôle important ensuite dans l'évolution de la biologie. Donc il a des connaissances relativement rudimentaires d'une part pour ce qui concerne les animaux, et d'autre part, puisque c'est la thèse qu'on examine aujourd'hui, pour ce qui concerne les machines elles-mêmes, à l'époque, les machines sont des machines relativement simples. On n'est pas dans les développements de la technique qu'on connaît aujourd'hui. Donc il faut bien se représenter le fait que Descartes estime qu'on pourrait produire des machines qui imitent le comportement des animaux, mais ça relève quand même d'une certaine expérience de pensée. Pour mémoire, le canard de Vaucanson, c'est dans les années 1730. Donc on imagine une machine qui reproduit le processus de la digestion. Donc il faut quand même avoir ces éléments à l'esprit. D'une part, Descartes est conscient du caractère contre-intuitif, et d'autre part, les animaux qu'il a à l'esprit et les machines qu'il a à l'esprit également sont relativement rudimentaires. C'est en partie ce qui le conduit à cette thèse.
Mais comment est-ce que, justement, on peut penser que Descartes propose cette thèse tout en ayant bien conscience que Descartes, c'est aussi le grand penseur du doute, le grand défenseur du doute, même comme première étape de la pensée? Qu'est-ce qui permet très concrètement de laisser entendre à Descartes, non pas que l'animal est une machine, mais en tout cas que l'animal ne ressent pas, que l'animal n'est fondamentalement pas fait du même bois que les hommes?
Moi, je pense qu'il y a une raison assez profonde. C'est-à-dire, autant on peut prendre de grandes distances à l'égard de cet énoncé hein, de l'animal-machine. Déjà, on peut la contextualiser, comme vient de le faire Louis Rouquayrol, dire que Descartes est évidemment plus fin que ça. Par ailleurs, on peut dire, voilà, elle est indéfendable en l'état. Mais pourtant, elle insiste et elle reste une forme de référence absolue qui fait que, 400 ans après, sur France Culture, on fait un débat sur l'animal-machine. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle insiste? Et je pense qu'il y a un point en particulier et qui vraiment, je trouve, transparaît assez bien dans l'animal-machine de Descartes. C'est quelque chose elle voit à mon avis comme une forme de symptôme, c'est-à-dire que la subjectivité animale ou la conscience animale, c'est quelque chose qui ne se voit pas en face. C'est quelque chose qui est fragile d'un point de vue épistémique, c'est-à-dire du point de vue du savoir objectif et du point de vue d'un scientifique comme le veut être Descartes, qui veut fonder le savoir de manière absolue sur des idées claires et distinctes. Eh bien, il a de sérieux doutes sur la subjectivité animale. Et ça dit quelque chose, me semble-t-il, de très important sur le fait que cette subjectivité animale, cette conscience animale, elle est vulnérable au savoir objectif. On ne peut pas la prouver. Au fond, elle appartient à ce que Descartes appelle l'usage de la vie, à ce que nous, en phénoménologie, on peut appeler le monde de la vie, c'est-à-dire, ou ce qu'on appelle aussi en philosophie parfois le sens commun. Là, nous n'avons aucun doute dessus, aucun doute sur la subjectivité de l'animal. C'est-à-dire que nous vivons avec des animaux qui sont des sujets. Mais ça, c'est le monde de la vie, ce n'est pas le monde de la science. Et le monde de la science est impuissant à accueillir, en quelque sorte, cette subjectivité animale. Et quand on regarde au XXe siècle comment s'est constituée une science de l'animal, par le behaviorisme, par exemple, ou par l'éthologie de Conrad Lorenz, et de Tinbergen, on l'aperçoit très cartésienne. C'est-à-dire que tous ces auteurs ne diraient pas que l'animal est une machine, mais au fond, ils font un peu comme ça. C'est-à-dire qu'ils considèrent quand même que l'animal est une forme d'association mécanique entre des stimuli. C'est un conditionnement opérant très, très mécanisé. Conrad Lorenz nous parle de coordination motrice héréditaire, il nous parle de réaction avide, et on retrouve tout le lexique cartésien de l'automate. Même si Conrad Lorenz n'aurait jamais dit que l'animal était une machine, au fond, ça revient au même parce que la subjectivité animale, encore une fois, ne se voit pas en face, ne se démontre pas. Elle peut se vivre dans l'ordre de la vie, et c'est ce que nous faisons toute la journée, mais elle ne passe pas le seuil du savoir.
Alors à propos justement de cette subjectivité animale difficile à percer, difficile à saisir également, il y a un texte de philosophie fondateur, il date de 1974, il est signé Thomas Nagel et il est intitulé « Quel effet cela fait d'être une chauve-souris ?» Un extrait là encore lu par Juliette Mouwelik.
Je suppose que nous croyons tous que les chauves-souris ont une expérience. Après tout, ce sont des mammifères, et il n'est pas plus douteux qu'elles aient une expérience que dans le cas des souris, des pigeons ou des baleines. J'ai choisi les chauves-souris plutôt que les guêpes ou les carrelets, parce que si l'on chemine trop loin le long de l'arbre phylogénétique, on abandonne graduellement la confiance que l'on peut avoir en la réalité d'une expérience. Les chauves-souris, bien plus proches de nous que d'autres espèces, présente néanmoins une gamme d'activités et d'appareillages sensoriels si différents de la nôtre que le problème que je voudrais poser est exceptionnellement net, bien qu'il puisse certainement se poser au sujet d'autres espèces. Même sans le bénéfice de la réflexion philosophique, quiconque a passé quelque temps dans un espace fermé avec une chauve-souris affolée sait ce que c'est que de rencontrer une forme de vie essentiellement étrangère.
Louis Rouquayrol, justement, qu'est-ce que nous dit ce texte sur cette subjectivité animale, encore une fois difficile à saisir, difficile à comprendre, et on comprend là aussi par là l'impossibilité de Descartes peut-être à déterminer ce qu'il souhaitait déterminer fondamentalement?
Alors, ce que je vais dire fera en partie écho à ce qu'a dit juste avant Étienne Bimbenet, c'est-à-dire que, évidemment, pour Descartes, une partie des motivations qu'il conduisent à sa thèse de l'animal-machine, c'est quand même ce qu'on pourrait qualifier d'un programme de recherche scientifique. Donc il estime que si on veut expliquer le fonctionnement, le comportement, le mouvement des animaux, il faut faire comme si c'était des machines et on se donnera les moyens d'atteindre une certaine forme d'intelligibilité. On pourra comprendre comment ça fonctionne.
Il a une ambition scientifique, vous voulez dire ?
Voilà, tout à fait. Je pense que c'est ça qui est, ou en tout cas c'est l'un des moteurs de sa thèse de l'animal-machine. Ça rend possible une compréhension scientifique du mouvement et du fonctionnement des animaux, en considérant, alors c'est dans le vocabulaire de l'époque, que les animaux sont comme des machines parce qu'ils sont composés de tuyaux, de ressorts, de mécanismes. Et que donc si on mène une enquête sur ces mécanismes, on pourra se donner les moyens de comprendre le fonctionnement des animaux. Cela étant dit, il y a un autre plan qui a été évoqué par Étienne Bimbenet et qui est bien mis en lumière par le texte sur les chauves-souris, c'est ce qui a été qualifié de subjectivité. Alors sur ce plan-là, évidemment, Descartes n'a peut-être pas grand-chose à nous dire, mais il faut tout de même remarquer qu'il introduit parfois un certain nombre de réserves dans sa thèse, et il lui est arrivé d'écrire, alors dans une autre lettre, cette fois-ci c'est une lettre à Thomas More, à Henry More, pardon, du 5 février 1649, dans lequel il dit la chose suivante: l'esprit humain ne pénètre pas dans leur cœur, en parlant des animaux. Donc il a quand même bien une certaine conscience du fait que quelque chose ici nous résiste, et résiste en particulier à son programme scientifique. Mais évidemment, ce sont des choses qui se situent sur deux plans un peu différents.
Il faut peut-être faire, Louis Rouquayrol, à ce stade de la discussion, une distinction justement entre esprit et sentiment. Descartes n'attribue pas d'esprit aux animaux, vous l'avez bien expliqué, c'est extrêmement clair, on peut se demander d'ailleurs pourquoi, mais pourtant, il explique que les animaux peuvent être traversés de sentiments, peuvent ressentir des choses. Comment opère-t-il, là encore une fois, cette distinction ?
Alors c'est une question particulièrement compliquée parce que on aurait envie de dire que si Descartes avait été cohérent, il aurait fallu qu'il refuse aux animaux le sentiment. Pour une raison très simple, c'est que chez Descartes, le sentiment est, alors dans son vocabulaire technique, un mode, on pourrait dire une manière de la pensée. La pensée se qualifie par un certain nombre de modes ou de manières, le raisonnement, mais aussi l'imagination, mais aussi le sentiment. Et donc à partir du moment où on refuse aux animaux le fait de posséder un esprit, et donc de posséder la pensée et ses différents modes, on aurait envie de dire, il faudrait en conclure, en toute cohérence, que les animaux ne peuvent pas éprouver de sentiments. Et c'est ce qui le conduit, me semble-t-il, lorsqu'il remarque toute la conséquence de cette thèse, à avoir un certain nombre de nuances et de clauses restrictives comme celles que j'évoquais il y a un instant. C'est-à-dire que l'esprit humain, au fond, ne peut pas pénétrer le cœur des animaux. Alors, je crois qu'en réalité, c'est un motif de plus pour dire que tout ça est quand même lié à une entreprise scientifique. C'est-à-dire qu'au fond, Descartes n'est pas si intéressé par la question de savoir ce qu'il y a au fond du cœur des animaux. Lui, il préfère faire comme si c'était des machines pour pouvoir mieux les expliquer.
Étienne Bimbenet, est-ce que d'abord vous êtes d'accord avec cette dernière remarque, dans le fond du fond, les animaux n'intéressent pas tant que ça, Descartes, mais plus encore, est-ce que vous voyez vous-même une incohérence de fond lorsque Descartes explique que les animaux n'ont pas d'esprit mais qu'ils ont des sentiments ?
Alors sur la question des sentiments et cette fameuse lettre à Henry More qui date de 1649, alors il répond à un distingué collègue de Cambridge et il veut pas trop le heurter, j'imagine.
Mais les formes.
Donc, il y a une concession un peu folle quand même par rapport à tout ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'on a le sentiment un peu d'une vérité dite en passant, comme on disait du Saint-Augustin a découvert le cogito en passant, c'est pas au centre de sa philosophie. Bon, là on a l'impression qu'il le dit en passant parce que voilà, il y met les formes comme vous dites. Mais bon, donc il y a toutes sortes en effet, on pourrait gloser longuement et j'imagine que dans la Pléiade sur cette question, il y aura des notes très longues pour dire que en fait, il y a quand même du sentiment mais sous quelle forme, etc. Bon, mais au-delà de ces distinguos très subtils, la question de l'entreprise scientifique dont parlait Louis Rouquayrol à l'instant me semble très importante. C'est-à-dire qu'en effet, c'est trop douteux la subjectivité animale. Donc on va se concentrer sur la seule chose qu'on puisse savoir en vérité et en toute certitude, et ce sera en effet le mécanisme, et voilà ce que dit Descartes. Mais alors cette thèse, il l'assume comme un paradigme, comme une fiction de scientifique, on va faire comme si c'était une machine, on y verra beaucoup plus clair. Mais ça réserve au monde de la vie, à l'usage de la vie, la possibilité de croire, en revanche, par préjugé, que les animaux ont une subjectivité ou une conscience. Et ça veut dire, si on va dans ce sens-là, qu'en effet, nous avons une approche, au fond, très schizophrénique du monde animal. C'est-à-dire que la science, elle, objective, et la vie, elle subjective spontanément. Et chacun a chacun de ses ordres, l'ordre de la vie, l'ordre de la science, a une autorité radicale. C'est-à-dire que je pense qu'aucun des auditeurs de France Culture ne douterait une seule seconde que les animaux vivent ce qu'ils vivent, ressentent du plaisir, etc. Et en même temps, très bizarrement, la science fait très peu de droit à cette subjectivité. Et le texte qui a été lu à l'instant de Thomas Nagel dit très bien cette schizophrénie. C'est-à-dire que la chauve-souris, c'est assez fascinant. C'est-à-dire que d'un côté, c'est un mammifère, un peu poilu sur la poitrine, voilà, avec un petit cœur qui bat, etc. Donc il y a une forme d'identification immédiate du point de vue du monde de la vie qui fait que nous n'avons aucun doute sur le fait qu'elle vit ce qu'elle vit et qu'elle a une subjectivité, comme dit Nagel. Et en même temps, il ajoute que elle a des sonars, elle a des organes sensoriels d'écolocation, ce qui paraît extraordinairement lointain de notre façon de percevoir, si bien qu'on ne peut absolument rien dire de cette subjectivité et que la position de la science, de ce point de vue-là, ne peut être qu'un mystérianisme, comme dit Nagel. Mystère total du point de vue de la science et certitude totale du côté de la vie.
Si je vous suis, Étienne Blimbenès, ce que vous êtes en train de nous expliquer très concrètement, c'est que nul ne croit autour de cette table et parmi les auditeurs à la thèse des animaux-machines. Nul n'y croit, j'allais dire, fondamentalement. Et pourtant, chacun perçoit le monde animal, en tout cas la grande majorité des gens, considèrent le monde animal de cette manière-là.
Oui, moi je pense que ça ne fait de doute pour personne que nous vivons au milieu d'animaux animés, de vivants vivants, c'est-à-dire de vivants qui sont les sujets de leur vie. Nous le savons 400 ans après Descartes, parce qu'encore une fois Darwin est passé par là, parce qu'après encore une fois les éthiques animales sont passées par là, parce qu'un travail démocratique a été fait et nous imprègne en profondeur pour ne pas discriminer les animaux, etc. Donc il y a tout un travail de la sensibilité qui fait que nous sommes devenus sensibles à la sensibilité des animaux. Et pour autant, donc la thèse de l'animal-machine ne tient plus pour personne, et pour autant elle insiste, à la fois, comme je viens de le dire, parce qu'elle dit une certaine fragilité du savoir objectif face à la subjectivité animale, et puis par ailleurs aussi pour une autre raison, c'est que dans la pratique, les zootechnies, l'élevage industriel, les abattoirs, l'élevage intensif de l'animal, au fond, ça revient à ça quand même. Ça revient à faire de l'animal une machine. Et ça interpelle nos divertissements et nos désengagements et nos dénis. Et on a beau savoir tous que l'animal n'est pas une machine, nous continuons à les mettre à mort quotidiennement pour les manger comme si c'était non pas des sujets, mais de la viande. Voyez, donc l'animal-machine, personne n'y croit, mais au fond, l'époque est cartésienne quand même dans son grand divertissement.
Louis Rouquayrol, vous insistez énormément sur la dimension scientifique du projet intellectuel de Descartes, mais pourquoi ne pas aller au bout de ce projet? Pourquoi ne pas considérer le corps humain lui-même comme une machine si l'ambition fondamentale, là encore une fois, c'est d'avancer dans le domaine scientifique?
C'est exactement le cas pour Descartes, le corps humain est une machine, ou du moins en un certain sens est une machine.
Le corps humain uniquement?
Alors non, en réalité, pour ce qu'on appelle la philosophie mécaniste de Descartes, c'est-à-dire sa manière de concevoir le corps, tous les corps sont en un certain sens des machines. C'est-à-dire que c'est la fameuse thèse qu'il avance à la toute fin de son grand livre de 1644, Les Principes de la philosophie, les choses naturelles sont homogène aux choses artificielles, c'est-à-dire à celles que nous produisons de nos mains. Alors, il y a une différence entre les choses naturelles, c'est-à-dire le corps humain, le corps animal, et les choses artificielles, c'est une différence de degré, c'est-à-dire que les mécanismes qui entrent en jeu dans le fonctionnement du corps humain et du corps animal sont des mécanismes infiniment plus complexes, infiniment plus subtils, qui se passent à un degré ou à un niveau beaucoup plus imperceptible, en un sens, mais sur le plan, pour employer un gros mot, ontologique, c'est la même chose. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas, si je puis dire, et si vous me passez l'expression, d'obsession de Descartes pour le corps animal en tant que tel. En réalité, c'est une thèse qui s'applique à la totalité des corps, vivants et non vivants.
Donc, il n'aurait jamais employé la notion de vivant, là, c'est totalement anachronique, et pourtant, il reconnaît une forme de continuité entre l'ensemble des corps vivants, le corps humain comme le corps non humain.
Tout à fait. Alors, évidemment, ce qui crée la différence entre le corps humain et le corps non humain, c'est que le corps humain loge en son sein une âme. Alors ça crée un certain nombre de...
C'est une autre distinction cartésienne, ça.
Tout à fait, c'est ce qu'on appelle traditionnellement le dualisme, c'est-à-dire que l'homme est composé d'âme et de corps, mais en fait, ce dualisme, l'expression est un peu galvaudée, puisque dans l'homme, l'âme et le corps sont, dit Descartes, très étroitement unis. Alors ça introduit un certain nombre de différences au niveau du corps humain lui-même, parce que comme il y a une âme qui est capable, par exemple, de produire des mouvements libres, on ne peut pas expliquer la totalité de ce que va faire un être humain à partir de la science telle que Descartes la conçoit à son époque. Mais il n'en demeure pas moins que le corps humain sans l'âme, si je puis dire, est une machine.
Étienne Blimbenès, comment aborder cette fois-ci la question du langage, hein? Quand je me souviens de mes cours de philosophie de terminale, le logos, le langage, c'est ce qui différenciait principalement l'humain du non-humain, l'humain de l'animal. Là encore, comment Descartes aborde cette question? Et est-ce que le langage permet là aussi de tracer des frontières entre les êtres?
Alors oui, ça c'est une question pour le coup qui me semble beaucoup plus intéressante. C'est-à-dire autant l'animal-machine, c'est une thèse qui a du plomb dans l'aile, si je puis dire, même si elle revient de différentes manières, notamment au point de vue pratique. Mais la différence anthropologique, telle que la différence homme-animal, telle que la pense Descartes à partir du langage et plus exactement de la parole, me semble beaucoup plus robuste philosophiquement et intéressante. Alors si on enlève toute l'enveloppe métaphysique du dualisme et on considère que la parole implique forcément d'avoir une âme pensante et parlante, si on enlève cet habillage ou ce vêtement métaphysique d'un autre âge, si je puis dire, si on ne retient de la parole que le comportement langagier, je pense qu'il dit quelque chose de très précis. Je pense que quand il dit le parler humain est un parler souple, qui peut être à propos de tout ce qui se rencontre, à propos de tous les sujets, il dit quelque chose de très précis sur le parler humain, qui pour le coup est impropre de l'homme. Alors, encore une fois, il faut penser ce propre de manière non métaphysique, mais il dit quelque chose sur ce qu'on appelle en philosophie le langage prédicatif, c'est-à-dire le fait de dire quelque chose sur quelque chose, c'est-à-dire de dire S, ce sujet, est P. Tel prédicat.
Le fait qu'il y ait un objet donné à la parole.
Oui, c'est-à-dire, je choisis, et c'est une ouverture incroyable, c'est une plasticité incroyable, le langage prédicatif. C'est-à-dire, vous choisissez n'importe quel objet. Je peux parler de ce micro, je peux parler de vous, je peux parler de cette émission, je peux parler de la lecture qui vient d'avoir lieu. Ça, c'est le S, c'est le sujet. Et à propos de ce micro, je peux dire toutes sortes de choses. Je peux décliner toutes sortes de prédicats et la conversation humaine des prédicats est ouverte. Cette façon d'envisager le langage comme une forme de plasticité, de créativité infinie, c'est exactement ce que dit Descartes à propos du langage en disant les animaux machines ne l'ont pas parce qu'ils ne sont que des machines et n'obéissent qu'à la disposition de leurs organes. En revanche, le langage humain est créatif, ouvert et peut dire absolument tout sur tout. C'est en effet un des attributs du langage prédicatif. Et là, pour le coup, ça fait une différence. Mais j'ajoute, évidemment, à condition de ne pas faire, à partir de là, de la métaphysique.
Louis Roquerolles, une réaction et peut-être une autre distinction à mettre en lumière, opérée par Descartes lui-même, c'est la distinction entre un langage, j'allais dire, mécanique, un langage incontrôlé et un langage animé par la pensée.
Oui, alors en fait, pour resituer l'argument dans son contexte général, on est dans la cinquième partie du discours de la méthode notamment, et Descartes essaie d'apporter un certain nombre de preuves ou de témoignages de sa thèse des animaux-machines. Et alors il en donne principalement deux, et le premier c'est en effet le langage, tel que l'argument est tel que vient de le restituer Étienne Bimbenet. En fait, ce qui frappe beaucoup Descartes, c'est que certains animaux ne sont, semble-t-il, pas dépourvus des organes qui sont nécessaires à la profération de la parole. C'est le cas de la pie, c'est l'exemple qu'il prend. La pie à qui on apprend à dire à sa maîtresse quand elle rentre « bonjour ». Cela étant, la différence essentielle, c'est que, y compris des êtres humains qui, eux, n'ont pas le moyen de proférer des paroles, donc Descartes pense évidemment aux muets, sont capables de se faire comprendre de nous en instituant librement, il y a une sorte de créativité du langage.
Il parle de signes.
Voilà, en instituant librement des signes qui témoigne aux autres qu'il possède la pensée. C'est en toute hypothèse ce dont les animaux sont incapables. Et donc Descartes tire l'argument, vous le voyez, de cette manière-là, qui consiste à dire, si les animaux pensaient, ils seraient capables de nous le faire savoir, qu'ils soient ou non pourvus des organes propres à la parole, puisqu'ils pourraient instituer un système de signes.
Étienne Bimbenet, qu'est-ce que Descartes, il faut entrer là aussi de plein pied dans la discussion, mais qu'est-ce que Descartes nous dit, nous enseigne de la souffrance animale? Est-ce qu'il pense même cette souffrance? Est-ce qu'il en tient compte à un moment donné dans le déroulé de sa réflexion?
Non, je pense que ce qu'il en dit, notamment dans cette lettre à Henry Moore dont on parlait tout à l'heure, c'est que oui, il y a peut-être une âme corporelle et peut-être des sentiments, de la joie, de la colère chez les animaux. Mais encore une fois, il le dit sans s'en donner, je dirais, les moyens théoriques de ça. Et les arguments les plus terribles viendront après lui chez Malebranche, par exemple, qui emboîte le pas de Descartes sur ce mécanisme. Il rajoute des arguments théologiques pour dire les animaux ne peuvent pas sentir, ne peuvent pas avoir de souffrance parce que n'ayant pas commis le péché originel, il serait injuste qu'ils souffrent et que Dieu les fasse souffrir. Donc vous voyez, il y a un argument de Théodicée qui est chez Malebranche qui, pour le coup, leur ôte toute possibilité de souffrance. Alors, quels que soient, encore une fois, les distinguos cartésiens, si on s'en tient vraiment à la thèse canonique de l'animal-machine, non, il n'y a pas de souffrance, très étrangement, alors que, encore une fois, c'est quand même peut-être ce qui vient en premier dans notre rapport aux animaux. Oui. Ce qui vient en premier dans le rapport que j'ai aux animaux autour de moi, c'est la sensibilité, c'est parce que je les investis d'empathie, je les investis de mon corps vivant, et bien avant de communiquer avec eux d'une quelconque manière, au fond, je ressens ce qu'ils ressentent.
Louis Roquerolles, vous êtes d'accord, là aussi, on n'a rien à tirer de Descartes au sujet de la souffrance animale ?
Alors il y a évidemment une distinction à faire, et c'est un peu ce dont je parlais précédemment, à savoir que la théorie des animaux-machines, elle se situe sur le plan de la théorie. Donc il n'y a pas de relation nécessaire entre la théorie qu'on soutient à ce sujet et le type de comportement qu'il faut adopter à l'égard des animaux. On pourrait très bien imaginer un partisan un peu attardé de la théorie des animaux-machines qui, par ailleurs, serait tout à fait réticent à faire du mal aux animaux. Donc il n'y a pas de relation nécessaire. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même reconnaître qu'au moins en une occasion, Descartes aura tiré des conséquences pratiques de sa propre théorie. Alors, c'est toujours cette lettre dont on parle beaucoup depuis tout à l'heure, la lettre à Henry More, où il dit qu'au fond, sa théorie a ceci d'intéressant, qu'elle nous déculpabilise de manger de la viande. Voilà, il le dit explicitement, et il estime que d'autres théories risqueraient de nous culpabiliser. Alors, il prend l'exemple un peu exotique des pythagoriciens qui croyaient à la théorie de la réminiscence, donc l'âme qui passe d'un corps à un autre. Et donc, évidemment, dans ce genre de théorie, on peut en tirer des conséquences de type végétarienne. Donc, Descartes, il faudrait faire cette distinction entre le plan de la théorie et le plan de la pratique, d'une part, et ensuite reconnaître que, sur le plan des conséquences pratiques, il est arrivé à Descartes d'en tirer des conséquences telles que celles que je viens de déterminer il y a un instant. Alors, je voudrais simplement ajouter une dernière chose à ce sujet-là, c'est qu'on a cet aspect-là, et un autre aspect, c'est que, malgré tout, Descartes a quand même refusé à plusieurs reprises l'idée que l'homme soit au centre de la création et que le monde soit fait à notre usage exclusif. Il le dit à plusieurs reprises, donc on pourrait aussi, si je puis dire, le tirer vers un autre côté, d'une certaine manière, sur ce sujet-là.
Je voudrais vous faire entendre une autre lettre, cette fois lue encore par Juliette Mouellic, hein, René Descartes, qui a écrit à Elisabeth le 15 septembre 1645.
Bien que chacun de nous soit une personne séparée des autres, et dont, par conséquent, les intérêts sont en quelque façon distincts de ceux du reste du monde, on doit toutefois penser qu'on ne saurait subsister seul, et qu'on est, en effet, l'une des parties de l'univers, et plus particulièrement encore, l'une des parties de cette terre, l'une des parties de cet état, de cette société, de cette famille, à laquelle on est joint par sa demeure, par son serment, par sa naissance. Et il faut toujours préférer les intérêts du tout, dont on est parti, à ceux de sa personne en particulier. Toutefois avec mesure et discrétion, car on aurait tort de s'exposer à un grand mal pour procurer seulement un petit bien à ses parents ou à son pays. Et si un homme vaut plus, lui seul, que tout le reste de sa ville, il n'aurait pas raison de se vouloir perdre pour la sauver. Mais si on rapportait tout à soi-même, on ne craindrait pas de nuire beaucoup aux autres hommes, lorsqu'on croirait en retirer quelques petites commodités, et on n'aurait aucune vraie amitié, ni aucune fidélité, ni généralement aucune vertu.
C'est vous, hein, Louis Roquerolles, qui nous avez recommandé cet extrait, cette lecture plus exactement. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne, selon vous ?
Alors, si j'ai recommandé cet extrait, que j'ai mis également dans le petit découvrir Descartes que vous évoquiez au début, c'est que, il faut me remettre un tout petit peu dans le contexte, hein, la collection Découvrir aux éditions sociales, c'est une collection qui s'adresse à un public large et qui est censée faire lire des textes qui pourraient intéresser des lecteurs contemporains. Alors, je pense que c'est le cas de ce texte, parce qu'il procède à une réforme un peu spectaculaire de l'image que l'on se fait de Descartes, avec l'idée d'un sujet maître de l'univers, avec toutes les idées qu'on y ajoute de la technique, de la maîtrise du monde par la science, etc., etc. Or, on s'aperçoit dans ce texte que Descartes rappelle une évidence qui aujourd'hui nous paraîtrait être une évidence de bon sens, que nous sommes une partie d'un univers, alors aussi d'une famille, d'une nation, etc., etc. Et ces totalités auxquelles nous sommes intégrés participent à notre propre conservation. Et donc, par conséquent, nous devons nous efforcer de rendre l'appareil, en quelque sorte. Nous devons nous efforcer de participer à la conservation de ces totalités qui elles-mêmes participent à notre propre conservation. Donc, vous voyez le genre de conséquences qu'on peut en tirer sur le plan pratique si on tient compte du fait que nous sommes une partie de l'univers.
Étienne Bimbonnet, quand on constate aujourd'hui les avancées scientifiques dans le domaine des sciences de la nature, je pense à deux concepts en particulier, l'agentivité des animaux, la sentience, c'est-à-dire aussi le fait qu'ils puissent vivre des expériences subjectives et ressentir la douleur. Est-ce que l'on peut dire que Descartes s'est trompé ou au contraire qu'il faut tenter de le relire mais avec un autre œil ?
Non, je pense qu'il faut vraiment, le texte que vous venez de lire prouve que Descartes est plus complexe qu'il n'en a l'air. Lui qui, en effet, est très, et principalement, on pourrait dire, principalement solitaire dans la pensée, parce que dans l'idée évidente, je suis seul avec moi-même et je suis prêt à renverser l'ensemble de ce que je savais jusqu'à présent et de renverser tous les préjugés reçus de l'enfance. Et donc, il y a une solitude radicale et de principe, encore une fois, hein, du philosophe, qui contraste avec, par exemple, sa morale par provision. C'est-à-dire que là, au contraire, il ne faudra rien changer, ou qui contraste avec ce texte qui vient d'être lu, c'est-à-dire, bah, voilà, s'intégrer dans l'ordre de l'univers, dans cette totalité qui le situe à l'opposé de sa solitude épistémique, si je puis dire. On a parlé d'une diplopie cartésienne. Mais voilà, il y a Descartes regarde souvent dans deux directions très différentes. Hein. Il regarde dans les directions solitaires du savoir évident, comme il peut regarder du côté, en effet, des usages de la vie, dans ce qu'ils ont de plus complexe. Et c'est frappant. Mais concernant la sentience, pardon, vous vouliez...
Oui, non, j'allais dire, on n'ira pas quand même jusqu'à dire aujourd'hui que Descartes est un chantre, un représentant de l'antispécisme, c'est-à-dire de l'absence de hiérarchie entre les humains et les non-humains, entre l'homme et les animaux.
Non, on n'ira jamais faire de Descartes un antispéciste. Il a purifié la nature de ses qualités occultes, dont la vie, dont la finalité, dont un certain nombre de choses dans lesquelles les antispécistes aujourd'hui travaillent radicalement à rebours de la purification cartésienne. Il tente au contraire de resubjectiver le vivant. Il raconte des expériences dans lesquelles ils se mettent à la place des animaux. Je pense par exemple à quelqu'un comme Temple Grandin, qui est une spécialiste américaine de zootechnie qui prend la peine dans les années 90 de se mettre à quatre pattes dans des abattoirs de l'Iowa aux États-Unis pour voir ce que ça fait d'être une vache qui va dans le couloir de la mort, etc. Parce que le meilleur service qu'on puisse rendre aux animaux, en quelque sorte, c'est précisément de vivre ce qu'ils vivent et donc de considérer qu'ils ne sont pas des machines et donc de restituer une subjectivité. Donc en grande partie, notre époque travaille contre cette thèse de l'animal-machine pour restituer une sentience, hein, pour restituer une forme de subjectivité souffrante.
Louis Roquerolles, hein, d'un mot, j'allais dire, les luttes antispécistes aujourd'hui, par définition, par construction, sont anti-cartésiennes.
Alors,
anti-cartésienne, j'allais dire anti-cartésienne singulièrement sur ce point précis de la distinction entre l'humain et le non-humain et de la vision de l'homme-machine.
Bon, déjà, c'est pas une littérature dont je suis particulièrement familier, beaucoup moins qu'Étienne Bimbenet, donc je pense qu'il vient de dire l'essentiel de ce qu'il y avait à dire sur le sujet. Pour répondre peut-être un tout petit peu à côté, vous me pardonnerez, il me semble que la question telle que vous la posiez plus généralement, qui était de savoir si Descartes s'était trompé et donc quels usages on pouvait faire de Descartes dans la littérature contemporaine, c'est malheureusement une question que ne se pose pas trop, malheureusement ou heureusement, l'historien de la philosophie. Voilà, donc en fait, quand moi, personnellement, j'étudie Descartes, je ne me pose pas tellement la question de savoir si il a sa place dans un camp ou dans l'autre des débats contemporains.
Merci à tous les deux de ce débat cartésien. Louis Roquerolles, vous êtes docteur en philosophie spécialisé en histoire de la philosophie moderne et vous venez de publier « Découvrir Descartes » aux éditions Sociales. Étienne Bimbenet, vous êtes professeur de phénoménologie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez publié en 2017 cet ouvrage intitulé « Le complexe des trois singes, essai sur l'animalité humaine » aux éditions du Seuil. Et merci à Juliette Moëlli qui maîtrise parfaitement la lecture de l'imparfait du subjonctif.